question qui est très importante à considérer. Pouvons-nous lutter contre Satan par nos propres forces? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et très utile aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je pense que c'est bien important pour nous de porter une attention particulière à l'enseignement qu'on va recevoir du livre de l'Apocalypse aujourd'hui. C'est toujours important, mais ce qu'on va apprendre au cours de cette émission sera très utile pour les croyants qui ont des luttes et aussi pour les gens qui ne connaissent pas encore Dieu de manière personnelle. Je crois que vous serez d'accord avec moi, alors qu'ensemble, on va écouter les réponses aux questions que voici. Est-ce que c'est vrai que Satan est affligé d'une laideur repoussante? Est-ce que c'est vrai qu'il a des cornes, des pieds de bouc et une queue fourchue? Pouvons-nous lutter contre lui par nos propres forces? Qui est le fils enfanté par la femme dans le livre de l'Apocalypse? Est-ce que Jésus assumera pleinement son autorité quand il reviendra sur cette terre? Qu'est-ce qu'il fait au ciel présentement? Est-ce que c'est vrai que l'archange Michel occupe un poste d'autorité sur la nation d'Israël? Restez avec nous. Le pasteur et Jean Joly est sur le point de partager la parole de Dieu avec nous. Cette parole merveilleuse qui va une fois de plus enrichir nos vies. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on désire que tu enrichisses nos vies. Mais on désire que tu le fasses pour ta gloire à toi. Apprends-nous à mieux te connaître, à mieux te servir à travers l'enseignement que tu vas nous donner aujourd'hui. Touche nos cœurs profondément et touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils te connaissent, qu'ils connaissent l'amour que tu as pour eux, l'amour de ton Fils mort sur la croix, pour eux, pour nous. Nous t'aimons, nous t'adorons, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Chers amis, nous avons terminé la dernière émission en esquissant un portrait de Satan, symbolisé dans le livre de l'Apocalypse par un grand dragon rouge. Il donne sa puissance à trois entités plutôt inquiétantes, l'Antéchrist, la bête et l'Empire romain restauré. Rome a tout d'abord cherché à détruire Jésus-Christ, l'enfant de la femme, en se servant d'abord du roi Hérode et ensuite du procurateur Pilate. Nous reviendrons là-dessus plus tard. Pour le moment, notre attention se portera sur Satan, l'ange déchu. Chers amis, lisons Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Les 7 têtes représentent la sagesse parfaite qui caractérisait Satan au temps où il était un chérubin protecteur. Ézéchiel chapitre 28, verset 12, nous précise que Lucifer a été créé par Dieu, plein de sagesse, parfait en beauté. Beaucoup de gens pensent que Satan est affligé d'une laideur repoussante, mais il a été créé parfait en beauté. La croyance populaire le dépeint souvent avec des cornes, des pieds de bouc et une queue fourchue. Ce portrait correspond plutôt à Pan, un dieu mineur de la mythologie grecque. Pan n'est pas Satan, même si Satan est la puissance derrière toutes les idoles. À Pergame, où se trouvait une des églises sévèrement critiquées par le Seigneur Jésus au début du livre, on trouve encore les ruines d'un temple dédié à Pan. Dieu a laissé à l'intérieur de chaque cœur humain le besoin d'entrer en relation avec lui pour l'adorer, mais lorsque l'homme s'éloigne de Dieu, il se tournera vers les idoles. Parmi les idoles, communément adorées aujourd'hui, on trouve l'argent, les biens matériels, l'ambition personnelle, l'alcool et les drogues. Et Satan se trouve derrière chacune de ces choses, comme il était derrière les anciennes idoles. Ne le sous-estimons pas. Il est doté d'une sagesse perverse et il est très habile. Nous ne sommes pas de taille à lutter contre lui par nos propres forces. Il tentera de nous attirer sur son terrain en nous faisant croire que nous pouvons le dominer sans l'aide de Dieu. Et de cette manière, il nous vaincra chaque fois. Rappelons-nous comment la Bible décrit. Son aspect est séduisant et il est rempli de sagesse. Il parvient à amadouer les hommes de plusieurs manières. Par exemple, il leur fera miroiter la grandeur de l'humanité. Il sait déjà combien l'homme est orgueilleux, car c'est avec son orgueil qu'il l'a fait tomber au jardin d'Éden. Il lui proposera ensuite que le bien et le mal sont des notions dépassées, simplistes, et qu'elles ne doivent pas l'empêcher d'assouvir ses désirs. Et bien sûr, il en arrivera ultimement à remettre l'existence même de Dieu en question. C'est dans cette direction qu'il a fait évoluer l'homme, si l'on peut dire. Les cornes représentent les empires terrestres, comme nous l'avons vu dans le livre de Zacharie. Ici, c'est plus précisément l'empire romain qui est visé. C'est le seul empire terrestre décrit dans la Bible qui survit encore à ce jour. À l'époque de la Grande Tribulation, son pouvoir politique lui sera redonné et il s'en servira dans un dernier effort pour dominer le monde. Les sept diadèmes représentent l'autorité terrestre des rois et des gouvernements. Ils sont la parure de Satan et se trouvent sous son contrôle. Le tiers des étoiles du ciel représente l'étendue de la rébellion dans les cieux lorsque le tiers des anges a décidé de suivre Satan sur le chemin de la destruction. On trouve certains détails de cet événement chez le prophète Daniel chapitre 8 verset 10 ainsi que Jude verset 6. Le dragon éprouve de la haine envers l'enfant de la femme car il a été prédit dès le début qu'il le vaincrait. Relisons ce passage bien connu du livre de la Genèse, chapitre 3, verset 15. Il contient la première promesse du Messie à venir, Jésus-Christ. Dieu annonce au serpent qu'elle allait être sa triste destinée. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et depuis ce temps, la postérité de la femme et la postérité du serpent se livrent une guerre sans merci. Et même si la postérité du serpent est supérieure en nombre et en puissance terrestre, la postérité de la femme se trouve sous la protection éternelle de Dieu. L'enfant de la femme, Jésus-Christ. Lisons Apocalypse chapitre 12, versets 5 et 6. « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Le Fils est Jésus-Christ. Il est facilement identifiable dans ce passage. J'espère que vous ne commettrez pas l'erreur d'identifier cet enfant à l'Église. Ce n'est pas l'Église, mais Jésus-Christ qui doit paître les nations avec une verge de fer. L'Église, composée de pécheurs, ne possède pas la sagesse de gouverner le monde avec sagesse. Rappelons la distinction entre la fausse Église, représentée au début de l'Apocalypse par Laodicée, et l'authentique Église, représentée par Philadelphie. La fausse Église, héritière de l'Empire romain, est principalement reconnaissable par deux caractéristiques. La première est sa haine pour la parole de Dieu contenue dans la Bible. Avouez qu'il faut le faire, prétendre représenter Jésus-Christ sur la terre tout en méprisant la parole de Dieu. Et pourtant, cette fausse Église y est parvenue pendant de nombreux siècles. Sa deuxième caractéristique est son amour immodéré pour le pouvoir et les richesses terrestres. Il est donc facile de comprendre pourquoi la perspective de paître toutes les nations avec une verge de fer lui sourit particulièrement. Malheureusement pour elle, le Fils n'est personne d'autre que Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas une église, mais bien le Messie décrit dans le psaume 2, verset 9. « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Nous pouvons savoir à qui l'Éternel donne ce pouvoir en revenant un peu en arrière au verset 2. « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Le psaume 2, verset 2. C'est au oint, c'est-à-dire à celui qui reçoit l'onction que l'Éternel donne le pouvoir de briser les rois et les nations de la terre avec une verge de fer. Dans le texte original hébreu, le mot traduit ici par oint est Machia, que l'on traduit littéralement par « Messie ». Dans l'Ancien Testament, l'onction d'une personne servait à le consacrer roi. C'est le cas pour David, qui reçoit l'onction royale du prophète Samuel, que nous pouvons lire dans 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 13. Dans le Nouveau Testament, « Messia » est traduit dans le grec original par « Christos », d'où nous tirons évidemment le mot « Christ ». Le « Machia » de l'Ancien Testament et le « Christos » du Nouveau Testament sont donc une seule et même personne, Jésus-Christ. Celui qui a reçu l'onction royale du Père éternel et qui paîtra les nations avec une verge de fer. Dans le livre des Actes, au chapitre 4, les croyants persécutés de la jeune Église citent ce psaume en identifiant le Seigneur Jésus-Christ comme étant celui qui doit régner avec une verge de fer. L'enfant est donc Jésus-Christ et rien ni personne d'autre. Il reviendra avec puissance. Jésus-Christ est descendu une première fois parmi nous, il y a 2000 ans, dans une attitude d'humilité et d'amour, mais dans l'ensemble, l'humanité l'a rejeté. Quand il reviendra, ce sera avec puissance qu'il assumera sa royauté. Personne ne pourra le traiter de tyran, car les hommes auront eu plus de 2 millénaires pour accepter son autorité par la douceur. De quoi pourrait-il se plaindre? Si Jésus agit avec eux avec douceur, ils le méprisent. Mais un jour, il reviendra avec force, et il mattra toute opposition et toute rébellion sur terre. Il les brisera avec une verge de fer, et comme le vase d'un potier. Comment pensez-vous que Jésus-Christ pourra assumer son autorité sur un monde rebelle? Supposez que Jésus apparaisse aujourd'hui dans n'importe quelle capitale du monde. Supposez qu'il se rende à l'Élysée ou à la Maison-Blanche, peu importe, pour réclamer tout bonnement le gouvernement de la main des hommes. Pensez-vous sérieusement qu'on le lui donnerait? Pensez-vous sérieusement que les puissants de ce monde seraient prêts à lui céder le pouvoir qu'ils chérissent tant, sans aucune violence ni effusion de sang? Vous n'aimez pas la violence? Moi non plus, et Jésus-Christ encore moins. Mais à chaque jour, le monde prouve qu'il n'est pas prêt à se soumettre à l'autorité de Dieu, à moins d'y être contraint. Quand Jésus-Christ reviendra, il assumera pleinement son autorité et toute rébellion sera écrasée. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône, précise le texte. Il s'agit évidemment d'une référence à l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Dans les Évangiles, l'emphase est placée sur la crucifixion de Jésus-Christ. Dans les Épîtres, c'est sa résurrection qui est soulignée. Et ici, dans l'Apocalypse, l'ascension de Jésus-Christ reçoit enfin la place qui lui est due. Il était temps. L'ascension de Jésus-Christ est trop souvent négligée, même dans nos églises chrétiennes. Pour cette raison, on entend peu parler du ministère actuel de Jésus-Christ dans le monde. Relisons donc ce merveilleux passage où le Seigneur Jésus-Christ retourne au ciel dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Ce passage est une source d'encouragement pour les chrétiens. Si vous tenez la Bible pour vraie, le retour de Jésus-Christ ne fait aucun doute dans votre esprit. Et le livre de l'Apocalypse nous révèle la nature et le ministère du Christ après son retour au ciel. Il est le Christ glorifié, et il reviendra dans la gloire. Toute l'Apocalypse repose sur l'événement de l'ascension de Jésus-Christ. Le ministère actuel de Jésus-Christ, rendu au ciel, il ne s'est pas croisé les bras, loin de là. Il a exercé son ministère de souverain sacrificateur qui supervise ses églises. Celles-ci sont représentées au début du livre par des chandeliers. Ensuite, lorsque le temps des nations tire à sa fin, on le voit recevoir le livre aux 7 sceaux. Hébreux chapitre 12, verset 2, déclare joyeusement, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. L'expression « être assis à la droite de Dieu » n'évoque pas la paresse, mais l'autorité. Sur le trône, le Seigneur Jésus-Christ voit à la bonne marche des églises. « Elle enfanta un fils », précise le texte de l'Apocalypse. En tant qu'homme, Jésus vient clairement de la nation d'Israël. Une fois de plus, cela confirme que la femme est bien un symbole d'Israël. L'Église, elle, a été générée par Jésus-Christ, et non le contraire. L'apôtre Paul règle cette question une fois pour toutes dans son épître aux Romains, chapitre 9, versets 4 et 5. Qui sont Israélites, et de qui est issu, selon la chair, le Christ? Et plus loin, dans Galates, chapitre 4, versets 4 et 5, nous apprenons ceci. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Jésus est né sous la loi donnée à Moïse et au peuple d'Israël. Il est né sous la loi car il était un Israélite. Toujours dans l'épître de Paul aux Galates, nous pouvons lire ceci au chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendants » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule « et à ta descendance », c'est-à-dire à Christ. Avant qu'Israël existe en tant que peuple, l'Éternel a dit à Abraham « je ferai de toi une grande nation, et par cette nation j'enverrai une semence ». Cette semence unique est Jésus-Christ. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Pendant une partie de la grande tribulation, le reste d'Israël jouira de la protection de Dieu. Certains commentateurs affirment qu'Israël fuira dans la cité de Pierre, de Petra, afin de se mettre à l'abri de ses ennemis. Mais, à bien y penser, Petra est bien la dernière place où j'aimerais me trouver en de telles circonstances, car je ne crois pas que les murs de pierre résisteront bien longtemps à l'assaut des bombes modernes. Nous ne devrions pas avoir peur de dire que nous n'avons pas toutes les réponses. Si vous êtes chrétien et né de nouveau, il ne vous est pas absolument nécessaire de savoir comment Dieu protégera Israël au temps de la grande tribulation, car vous ne serez plus sur la terre. Si vous n'êtes pas déjà mort, vous serez monté vers Jésus-Christ sur les nuées. Affirmez dogmatiquement quelque chose, lorsque cela n'est pas clairement indiqué dans la Bible, nuit à la réputation de l'Évangile du salut. Si je tiens absolument à donner mon opinion, même si je ne suis pas sûr de ce que j'avance, je peux toujours dire « je pense que les choses se passeront ainsi » ou « je pense que c'est la signification de ce passage ». Michel l'Archange. Lisons notre dernier texte pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et il y eut guerre dans le ciel. Il est difficile de comprendre à quoi une guerre dans le ciel peut bien ressembler. Satan semble avoir été capable d'accéder au ciel. Cela a éventuellement soulevé certains problèmes. Au début du livre de Job, il est écrit que Satan est apparu devant Dieu avec les autres fils de Dieu. Apparemment, il avait le droit de le faire tout autant que les autres. Il avait été créé par Dieu et il occupait un poste de haut niveau. Nous pouvons également lire dans le prophète Zacharie, chapitre 3, versets 1 et 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Satan avait un accès auprès de Dieu et il était capable de communiquer avec lui. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, verset 31, Satan accuse encore les élus. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Je ne pense pas que Satan ait envoyé un courriel à Dieu pour l'informer de la situation sur terre. » Il pouvait se présenter devant Dieu et il lui a demandé de mettre Simon-Pierre à l'épreuve, et Dieu le lui a permis. Michel est un archange. Satan et lui sont donc deux créatures semblables, mais appartenant à deux camps opposés. Et ils n'en sont pas leur première escarmouche. Nous avons premièrement l'épisode dans Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit « Que le Seigneur te réprime ». Il existe évidemment d'autres archanges, mais Michel semble s'occuper tout particulièrement de la nation d'Israël. Écoutez cet épisode tiré du prophète Daniel, chapitre 10, verset 13. C'est un ange qui parle. « Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. » Michael ou Michel est un des principaux chefs. La Bible mentionne seulement le nom de deux archanges, Michel et Gabriel. Il existe probablement plus d'archanges que ces deux-là, car nous avons vu plus tôt que des myriades d'anges adoraient Dieu. Un peu plus loin, dans le même chapitre du livre du prophète Daniel, au verset 21, on peut lire ceci. « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. » Puisque l'Éternel s'adresse alors à Daniel, un juif, l'archange Michael occupe un poste d'autorité sur la nation d'Israël. Nous en obtenons la confirmation, toujours dans le prophète Daniel, chapitre 12, verset 1. « En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. » En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Nous connaissons déjà cette période de détresse intense. Il s'agit de la grande tribulation. Et Michael, appelé Michel dans le Nouveau Testament, sera encore appelé à protéger les élus de la nation d'Israël. Cette fois-ci, il chassera Satan des cieux. En passant, si Michel, l'ange gardien de la nation d'Israël, apparaît sur scène, nous pouvons conclure qu'Israël court un danger. Cela tend à confirmer que c'est bien Israël qui est impliqué dans notre passage. Il y aura donc, dans les cieux, une féroce bataille, une guerre. Satan et ses alliés démoniaques ne s'avoueront pas facilement vaincus. Mais Michel et les fidèles anges de Dieu seront prévaloir. Satan et les démons qui leur ont suivi n'auront plus accès au lieu céleste. Cher ami, je termine cette émission ici, mais juste avant, j'aimerais vous poser cette question fort importante. Connaissez-vous l'enjeu de cette guerre, de cette bataille céleste et terrestre? C'est vous et moi. Oui, c'est vous et moi, ou, si vous préférez, c'est notre âme. C'est ton âme et mon âme qui est en jeu dans cette bataille. À qui appartient ton âme? Moi, j'ai fait un choix. Je l'ai remis entre les mains du Seigneur, de Jésus-Christ, qui est venu la sauver, la racheter pour son éternité. À toi maintenant de faire ce choix. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse chapitre 12, les versets 9 à 12. À vous tous, bonne lecture!
Merci, Régent. Mes amis, je suis tellement reconnaissante envers Dieu pour l'enseignement qu'on vient de recevoir ensemble. Dans les temps où nous vivons, Les croyants ont des combats spirituels intenses et on a besoin premièrement de bien connaître notre Dieu, mais aussi de connaître l'adversaire et les ruses qu'il exerce contre nous, n'est-ce pas? On a vu clairement aujourd'hui qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer, qu'il est doté d'une sagesse perverse et qu'il est très habile. On a vu qu'on n'est pas de taille à lutter contre lui par nos propres forces, mais qu'on a absolument besoin de l'aide de Dieu, notre Dieu Tout-Puissant. Dans l'11e chapitre de la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au verset 14, il est écrit que Satan se déguise en ange de lumière. Et dans le 6e chapitre de son épître aux Éphésiens, au verset 12, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, mes amis, je ne me verrai surtout pas lutter contre eux par moi-même. Mais gloire à Dieu, Jésus a remporté la victoire à la croix. Il a remporté la victoire pour nous contre la chair, le monde et le diable. Et il nous donne sa puissance par son Esprit Saint. Il a vaincu Satan et il nous a donné son esprit afin qu'on n'ait pas à lutter seul. Alors mon frère, ma sœur en Jésus-Christ, quand tu sais que tu es dans un grand combat, ne te laisse pas décourager. N'essaie surtout pas de t'en sortir par toi-même. Réclame la victoire au nom de Jésus-Christ. Et toi, mon ami, toi dont l'Esprit de Dieu n'habite pas encore en toi, tourne tes regards vers Jésus-Christ. Il y a environ 2000 ans, il est mort sur la croix. Ça, tu le sais, mais savais-tu qu'il était mort pour toi en particulier? Et maintenant, il s'adresse à toi en particulier, même si c'est par ma bouche qu'il le fait. Son esprit habite en moi, et c'est lui qui me pousse à t'inviter, à recevoir Jésus comme ton sauveur personnel. Il s'adresse à toi personnellement, en ce moment. Reconnais tout simplement que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Si tu le lui demandes de tout ton cœur, sans douter, il le fera. Et son esprit viendra habiter en toi. Tu recevras cette puissance et tu ne seras plus jamais seul pour combattre. Et quand tu quitteras cette terre, tu iras dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et tout ça, ça a été payé en entier, c'est gratuit pour toi, mais Jésus a payé cher. Il s'est laissé fouetter, couronner d'épines, cracher au visage, donner des coups de poing. Il s'est laissé mettre une couronne d'épines sur la tête, il s'est laissé crucifier et il est mort, comme s'il était le plus grand des pécheurs. Il l'a fait pour toi, mon ami, alors demande à Jésus de te sauver. Demande-lui de te donner la vie éternelle.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, GEG 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.